cigar. Nose to the grindstone.
On va vous jouer un bon vieux rock, bien rétro.
Faut pas croire, mais on s'amuse bien, Radio Point Plus.
Radio Campus 88.3
TVOD.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression.
Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État toujours déclenché au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dans laquelle nous allons parler de reggae, musique populaire venue de Jamaïque et qui a conquis le monde, vous le savez, assez rapidement, en tout cas à la fin du XXe siècle. Nous en parlons avec Jérémy Krubo-Danini. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Hassan.
Jérémy, on se connaît, hein, donc oui. on va pas commencer à se dire tu ici, là, voilà. On va pas se dire
tout
vous,
fait,
je veux dire, tu, ici et ailleurs. Tu es écrivain, chercheur, enseignant. J'ai oublié quelque chose ?
Conférencier,
évidemment. Nous t'avons invité parce qu'une exposition a lieu à la médiathèque Lettres de l'Université d'Orléans qui ouvre le 2 mai prochain sur ton travail, notamment, c'est-à-dire tes écrits, tes photos sur la Jamaïque. Tu es spécialiste de la musique populaire jamaïcaine, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui, spécialiste des musiques populaires jamaïcaines. Et donc, il y aura une exposition, effectivement, qui se tiendra à la BU de Lettres, du 2 au 26 mai. Ce sont des clichés que j'ai pris pour la plupart en Jamaïque au début du 21e siècle.
Et c'est, en fait, c'est dans le cadre des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes qui ont lieu, c'est un projet national.
C'est dans le cadre des semaines sur l'Amérique latine et les Caraïbes qui auront lieu là en mai-juin.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est le Bureau des Relations Internationales qui m'a commandé ce projet.
Et un autre aspect de ce que tu fais, c'est-à-dire écrire pour les documentaires, un documentaire a été fait qui s'appelle Le souffle du reggae, qui sera diffusé également ici à l'Université d'Orléans, au Bouillon,
Le 6 juin à 18h, effectivement, c'est un documentaire qui date de 2015-2016. C'était un documentaire à l'époque que Franço m'avait commandé. Donc, j'avais écrit le scénario et il avait été réalisé par Jérémy Cuvillier.
Nous allons en parler en détail dans cette émission. Nous avons d'autres choses à vous proposer, amis auditeurs et auditrices. Vous savez, dans quelques minutes, Mourad Guichard, journaliste indépendant, fait l'ouverture de cette émission. Nous décryptons avec lui des sujets d'actualité ou locaux ou plus loin. Aujourd'hui, nous parlons des casserolades avec Mourad. Hier soir avait lieu à Orléans, vous savez, ces concerts de casseroles pour contester l'action du gouvernement et du président de la République. Et nous allons diffuser ce reportage en deux fois, donc une première partie avec Mourad et une deuxième partie à la fin de cette émission. À bâton rompu, c'est parti.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
Bonsoir et bienvenue dans cette émission, cette nouvelle édition d'Abaton Rompu. Nous allons parler de toi avec toi, de sujets. Commençons par...
On peut parler de moi aussi. Hein,
peut parler de M. Mourad. Comment ça va, M. Mourad?
Alors,
hier, partout en France, avait lieu ce qu'on appelle les casserolades, un concert de casseroles devant les mairies pour exprimer de la colère face au gouvernement, au président de la République, face à l'adoption forcée de la réforme des retraites. 150 à 200 personnes étaient réunies devant la mairie d'Orléans, parmi eux, Hélène.
Sociale de Macron, contre la violence à l'égard de tout le monde, du peuple entier. Voilà, il y en a ras-le-bol. Donc je suis là. Alors moi je suis retraitée, mais je suis solidaire des futurs retraités parce que, entamer sa retraite en bonne santé, suffisamment jeune pour pouvoir en profiter, c'est primordial. Après des années de travail, voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis là ce soir.
Et voilà. C'est inédit hein, quand même qu'il y ait autant de monde sur toutes les manifestations qui a eu lieu.
Oui,
qui a eu lieu.
Oui.
Et là, c'est deux rassemblements pour les casseroles.
Oui, en plus, on est en plein milieu des vacances, donc il doit y avoir des gens en vacances. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de monde. Toutes les manifestations qu'on fait contre cette réforme qui est vraiment une contre-réforme parce que c'est vraiment, vraiment taper sur les gens, c'est vraiment aller récupérer, il y a toujours autant de monde, donc voilà.
Et parmi les citoyens et citoyennes orléanaises, des élus, des hommes et femmes politiques, dont Jean-Sébastien Herpin, qui représentait les Verts écolos.
C'est complètement évident, apparemment il faut faire beaucoup de bruit, parce qu'il y a un petit problème d'audition au niveau de nos élites. Et c'était obligé d'être là aujourd'hui pour se faire entendre, pour rappeler à tout élu, de quelque bord que ce soit, qu'il y a des voix qui les élisent et que les résultats, même un an plus tard, les résultats les obligent, surtout quand ils s'engagent à dire des choses comme ça.
Il se passe vraiment quelque chose en France, là.
Effectivement, et puis quelque chose d'à la fois fatigué, désespéré, mais qui reste festif. Hein.
Alors il n'a pas envie, là, je parle du président de la République, il n'a pas envie d'abandonner, de retirer sa réforme.
Ben, qu'il s'en aille, parce que nous non plus, on n'a pas envie que ça continue comme ça. On l'a élu, et on l'a pas élu comme ça, on l'a élu pour faire obstacle au fascisme rampant qui peut encore arriver la prochaine fois, et ce, à cause de lui.
Et dans vos rangs, je parle bien des Verts écolos, qu'est-ce qui se dit? Vous allez continuer jusqu'au bout le retrait absolument?
Il n'y a pas que ça, il y a et la retraite, il y a les problèmes sociaux, il y a aussi les attaques et verbales et par les violences policières du ministre Gérald Darmanin qui nous traite d'éco-terroristes, alors qu'à l'heure actuelle, le terrorisme intellectuel, c'est lui, au lieu de s'attaquer à l'extrême droite rampante qui est en train de préparer je ne sais combien de complots par l'extrême droite relevés par la DGSI. Non, il s'attaque à des écologistes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage à s'attaquer à plus fort? Je ne sais pas.
On dit qu'il se prépare un 1er mai du tonnerre de Dieu.
Du tonnerre du peuple.
Du peuple.
Oui. Un 1er mai qui va être festif, qui, je pense, va y avoir énormément de monde. On est dans l'unité complète, malgré ce que certains peuvent dire, à gauche. Vous les entendez derrière moi, il y a de la joie, il y a du désespoir en même temps, et le 1er mai sera comme ça.
Mourad, nous avons parlé avec Jean-Sébastien Herpin du 1er mai qui se prépare. Je sais que toi tu prépares également un papier hein, sur cette journée qui risque d'être, forte.
Oui, elle va je pense être forte. Alors moi je prends Je prends vraiment l'histoire des casserolades très au sérieux. C'est-à-dire que ça peut paraître festif, ça peut paraître rigolo et léger. En fait, je pense vraiment pas. Je pense que c'est fort heureusement pour le pouvoir, c'est une forme de canalisation de la colère qui est vraiment absolument ancrée. Alors une colère qui est mue par notamment le mépris. Hein, c'est le mot qui revient le plus souvent. Le mépris de l'exécutif. Et puis là, vraiment à voir. Alors je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux les comptes des ministres et des porte-paroles. Je pense à Maud Bréjon, par exemple, qui a annoncé une espèce de ode à la gloire du leader bien-aimé Emmanuel Macron et qui sonne terriblement faux. Et surtout, les éléments de langage qui sont diffusés auprès des ministres et qui sont rebalancés par les députés macronards et par les ministres d'une manière complètement insincère. Enfin, c'est complètement... Tout ça sans le carton-pâte. J'aurais presque envie de dire la fin de règne, mais malheureusement, les institutions... Et là, je viens de raccrocher avec un sénateur du Nord, Éric Bocquet, pour ne pas le nommer. La problématique de fond, c'est qu'il faut changer de République. Effectivement, la 5e est arrivée vraiment au bout, sauf qu'ils sont à la fois, grâce à cette 5e République, ils sont à la fois juges et partis. C'est-à-dire, le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, la majorité très relative, mais qui lui est acquise au Sénat, notamment sur la question des retraites, ils sont juges et partis. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent décider, qui peuvent décider avec le président d'un référendum, par exemple. Mais s'ils le lancent, ils savent très bien qu'ils seront perdants. Et donc, voilà, il y a peu de chances que ça aboutisse pour l'instant, décision qu'on attend le 3 mai du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. Sauf que là, on n'en est pas là. Donc il y a une vraie colère, et la colère est partout, et surtout les gens qui vont venir le 1er mai, pour répondre à ta question, vont venir avec 10 000 revendications. J'ai interviewé des gens du milieu de l'animation, par exemple, un directeur de périscolaire, qui m'explique à quel point c'est un métier d'utilité publique. Si ces animateurs n'étaient pas là, s'il n'y avait pas de service périscolaire dans les mairies, combien de parents seraient dans la mouise complète, puisqu'ils ne pourraient pas récupérer leurs enfants, ils seraient obligés de récupérer leurs enfants plus tôt. Enfin bref, il y a toute une série de choses qui sont autour de ça. Et ils me racontent que et la précarité et le niveau des salaires sont tels qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à recruter. Et que y compris à cause de cette question de précarité et de faiblesse des salaires, il va falloir que celui que j'ai eu, qui a commencé à bosser à 16 ans, va devoir bosser jusqu'à 67 ans. Il a fait une simulation et donc il voit que c'est complètement illégal, pas illégal, mais inégal et injuste pour les professions les plus exposées, et ces fameux premiers de corvée qui vont se retrouver à être effectivement pénalisés. Alors ça va de là, mais j'ai eu, alors parce qu'on a entendu Jean-Sébastien Herpin, j'ai aussi eu Marine Tondelier, donc la secrétaire nationale des Verts d'Europe Écho, qui est par ailleurs conseillère régionale dans les Hauts-de-France, et qui m'expliquait que, voilà, y compris sur le terrain environnemental et écologique, il n'y a pas eu d'avancée de la part de ce gouvernement, qui a été condamné, je vous le rappelle, pour inaction climatique, et ils demandent qu'enfin, donc ils vont aussi aller au 1er mai, défiler au 1er mai pour demander à ce qu'enfin le travail soit en adéquation avec l'urgence climatique. Donc il y a les salaires, évidemment, il y a toute une série de choses vraiment qui sont dans les besaces. Il y a pas seulement les retraites, et donc c'est pour ça qu'effectivement, alors on peut employer le terme peut-être d'explosif, on va voir ce que ça va donner le 1er mai, mais c'est un 1er mai effectivement qui va catalyser tous les problèmes sociaux qu'on rencontre à travers le pays, avec évidemment en tête de gondole les retraites, mais pas que. Et je pense que c'est le pas que qui va être décisif dans la suite des événements.
Ouais. Et ton papier sera visible dans sur quel support ?
Alors là, je suis de retour à Orléans quelques jours, mais ce sera sur Liberté Hebdo, donc libertéhebdo.fr et sur la version, évidemment, la version papier de l'hebdomadaire des Hauts-de-France.
Eh bien, nous allons partager cela. Deuxième sujet à voir avec toi ce soir, Mourad. Chers amis auditeurs, peut-être vous ne connaissez pas ce nom, monsieur Charles Prats. Si vous ne le connaissez pas, écoutez bien ce que vous en dire Mourad. Il est ce monsieur, l'ancien vice-président du tribunal judiciaire de Paris. Il est nommé vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal tribunal judiciaire d'Orléans, mais le passé de ce monsieur pose quelques questions, Mourad.
Oui, alors c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur les plateaux télé, il suffit de le googliser pour voir son visage. Il s'est fait connaître sur les plateaux télé, notamment des télés, celles qu'on appelle télé Mille Collines. Je ne la citerai pas, mais dont on la reconnaîtra, pour avoir pondu des espèces de pseudo-rapports sur la fraude sociale. Je dis bien la fraude sociale, pas fiscale, hein, parce que l'évasion fiscale, évidemment, c'est autre chose. L'évasion fiscale, c'est plusieurs... on l'estime maintenant à près de 100 milliards d'euros. Par an, ce qu'on appelle la fraude sociale, en fait, c'est quelques centaines de millions d'euros, et ça concerne évidemment la caisse d'allocation familiale et l'assurance maladie, et évidemment, ça vise les pauvres et les étrangers. Mmh. Et il tient des discours absolument radicaux qui lui ont valu notamment d'être sanctionné par son instance.
En janvier dernier, effectivement.
Absolument, et donc il a été sanctionné pour notamment des tweets sur les... Alors je crois que c'était sur les Khmers verts.
Les Khmers verts, en parlant des écologistes. Et oui, puis il avait également parlé des gilets jaunes, ouais, c'est la peste noire.
Voilà, la peste noire concernant les gilets jaunes. Donc le poste extrêmement sensible politiquement et humainement qui est celui de juge de la détention des libertés, que la sanction se traduise par le fait qu'il vienne à Orléans. Là j'avoue que, alors moi qui suis en ce moment dans le Nord, on a connu Hasbrouck, on a connu des villes comme ça où les gens étaient limogés, on a connu Limoges. Là c'est Orléans. Bon bah voilà, c'est à Orléans qu'on envoie les gens qui ont été sanctionnés. Et on leur donne pratiquement la même mission. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, un gilet jaune de l'Orléanais, s'il se fait arrêter ou si un écologiste qui va faucher, je ne sais pas moi, un champ d'OGM, se retrouve face à lui alors qu'il va devoir décider de sa mise en liberté, même conditionnelle, ou de son maintien en détention, franchement, on se pince parce que c'est complètement délirant. Et ça renvoie d'ailleurs vers un autre cas qui avait été celui de François Lagarde, qui était élu à Orléans, qui avait été nommé par Serge Gouard en 2014, lorsqu'il avait remporté la mairie au premier tour. Il avait une délégation de chats, en gros, on avait appelé ça comme ça à l'époque, de chasse aux étrangers. Mmh. Donc il fallait qu'il contrôle les étrangers comme le ferait un pays tiers, hein, comme le ferait un ministre de l'Intérieur d'un pays divers. Mmh. Là, c'est une commune qui s'arrogeait le droit de contrôler les étrangers, à savoir si j'étais pas là pour rester de manière illégale et ainsi de suite. Donc évidemment, pardon, ça a été cassé par la préfecture suite au fait qu'on l'ait dénoncé par voie de presse. Mais on a découvert, je crois que c'était un confrère de rue 89 Lyon,
à l'époque,
qui avait découvert qu'il était magistrat à Lyon et qu'il s'occupait notamment de la gestion des OQTF, donc au tribunal administratif. C'est-à-dire qu'il avait à se prononcer, à donner son avis sur des obligations de quitter le territoire français, donc concernant des étrangers, alors qu'à Orléans, parallèlement, il s'occupait il était chargé de la chasse aux étrangers, donc ce qui posait un vrai problème, et il a été effectivement débarqué de cette fonction. Mais voilà, ceci pour dire que là, je pense qu'il y aura une suite, et j'espère qu'il y aura une suite, et qu'au moins des associations localement vont alerter les pouvoirs publics et vont aller même en justice pour demander à ce qu'ils soient au moins muté sur une autre fonction et idéalement pas dans une autre ville, parce que ce serait dépassé le problème, mais qu'il ne puisse plus décider de la libération ou du maintien en détention de citoyens dont sur lesquels il vomit à longueur de tweets, de messages sur les réseaux sociaux.
En tout cas, amis auditeurs et auditrices, vous savez maintenant qui est Charles Pratt. Merci Mourad d'avoir participé encore à cette émission. On se retrouve mardi prochain.
Avec grand plaisir. Bonne fin de semaine. À toutes et à tous. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Give up the fight.
thing and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unhurt. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you
gonna we gonna do? Stand up for
yeah,
our rights.
Yeah,
so
yeah.
You better
get up.
Le reggae à son très haut niveau, les Wailers à l'instant sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Ça c'est l'hymne hein, des révoltés de à travers le monde, les Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh au chant. Nous allons parler de reggae maintenant, vous le savez, vous étiez prévenus. Jérémy Crevaux-Danini, notre invité, est un spécialiste des musiques urbaines jamaïcaines. Alors Bob Marley est arrivé dans ta vie quand, toi ?
Oh, moi, Bob Marley, il est arrivé dans ma vie tout jeune. Hein. C'est mon grand frère qui m'avait fait découvrir Bob Marley. Je devais avoir peut-être 8, 9, 10 ans. Quoi.
C'est lui qui te fait rentrer dans le reggae, en fait, après les coups de... C'est où y a... quel artiste, d'ailleurs, te...
Ouais, te les artistes qui m'ont...
Marqué, vraiment.
Ce sont les premiers artistes que j'ai écoutés. C'est Bob Marley, c'est Ziggy Marley, Alpha Blondy, bien évidemment, puisque je suis d'origine ivoirienne. Je pense
Et tu vivais à Abidjan à l'époque?
Non, j'étais en France, j'étais
D'accord.
à Reims.
Ok.
J'étais à Reims.
Et Alpha Blondy déjà, dans les années...
Alpha Blondy, oui, dans les années 84.
80, ouais,
84, voilà, moi j'avais 7 ans à l'époque. Quoi.
Mais quand est-ce que tu décides d'en faire un sujet de recherche, hein, un sujet d'étude et d'en gagner ta vie avec ?
Oh, ben beaucoup plus tard, là. C'est lorsque j'ai fait des études, je faisais des études d'anglais. Et puis en avançant comme ça dans les études, après la licence, déjà en licence à l'époque, j'avais fait mon mémoire de licence sur la Jamaïque, en maîtrise, puis en DEA, l'ancienne version du master, quoi. Mmh. J'ai également continué à travailler là-dessus et puis logiquement, j'ai fait une thèse sur la musique jamaïcaine. En fait, j'ai essayé de lier passion et puis boulot, quoi.
Et t'en fais une thèse à un moment ?
J'en fais une thèse, voilà, ma thèse de doctorat qui porte sur l'histoire des musiques populaires jamaïcaines, c'est ça.
Et tu séjournes plusieurs fois, évidemment, pour
voilà,
la thèse à la
Jamaïque. À l'époque, j'allais souvent en Jamaïque, plusieurs fois par entre 2004, 2005 et 2010, voilà, j'étais tous les ans à la Jamaïque, parfois plusieurs mois dans l'année, en fonction des besoins. Quoi.
Une vraie claque, non ?
Oui, une vraie claque, surtout la première fois. Ouais. La première fois que je suis parti en Jamaïque, c'est vrai que j'écoutais déjà bien du reggae depuis une bonne quinzaine d'années, 10-15 ans. J'arrive à la Jamaïque et voilà, je me dis, ouais, je suis sur l'île de Bob Marley, quoi. Donc vraiment, là, c'est clair que tu prends une claque. Et puis, mais en même temps, j'avais quand même déjà voyagé pas mal auparavant. J'étais déjà parti, bien évidemment, en Côte d'Ivoire. Je connaissais plusieurs pays africains, hein, le Bénin, la Côte d'Ivoire. J'étais parti aussi à la Martinique. Donc, j'ai pas été dépaysé
oui,
plus que
vraiment,
ça,
oui.
Mais j'ai pris une claque parce que je me suis dit, voilà, c'est de là que vient le reggae, c'est de là que vient cette musique qui me passionne. Et donc, après, encore double claque lorsque j'ai commencé à rencontrer après les artistes locaux. Quoi.
Je salue l'arrivée de Victor qui co-présente cette émission avec moi. Bonsoir, monsieur Victor.
Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
Avez-vous un mot d'excuse de vos parents?
Non, j'étais en train de discuter avec un salarié.
Oui, t'inquiète, monsieur fait partie du CA de la radio, tout ça. Bon, bref, si tu as des questions à poser à Jérémy, surtout n'hésite pas.
Mm-hmm.
Tu en fais donc un sujet de recherche et ta thèse est publiée sous forme de livre plus tard. On va va vite hein, pour
voilà,
pouvoir
oui,
parler
oui, de l'expo. En 2011, ma thèse ouais. est publiée chez Camion Blanc.
Oui.
Et donc, c'est une version remaniée de ma thèse qui s'appelle Vibrations jamaïcaines, ouais. l'histoire des musiques populaires jamaïcaines au XXe siècle.
J'avais adoré et ça avait, vous avez donné l'occasion de faire une émission ensemble. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Ça traîne quelque part.
Il va y avoir une trace.
Une très belle interview à l'époque. Alors, de quoi parle ce livre et cette thèse?
Ce sujet de recherche, en fait, c'était démontrer, en gros, comment l'histoire de l'île, comment l'histoire sociétale, politique, culturelle a influencé la musique et vice-versa, en fait. Comment la musique est imbriquée dans l'histoire sociale, sociopolitique, socioculturelle de l'île. Quoi.
Ouais. Et l'Afrique, je pose une question à voilà. Jacques Chancel. Et l'Afrique dans tout ça. Oui, vas-y.
Ben, l'Afrique dans tout ça, c'est la base. Sans Afrique, il n'y a pas de Jamaïque déjà. Oui, puisque les Jamaïcains.
Ça, tu es persuadé de ça, vraiment?
Non, mais c'est pas une affaire de persuader, c'est un fait. Oui. Je veux dire, les Jamaïcains à 90% sont des descendants d'Africains.
Mais au niveau musical, je veux dire.
Et au niveau musical, c'est la même chose. Je veux dire, la musique jamaïcaine, c'est une musique noire avant tout. C'est un peu le blues caribéen. C'est-à-dire, sans l'Afrique, il n'y a pas de blues, il n'y a pas de jazz. Il n'y a pas de samba, il n'y a pas de reggae.
Ça, on en est persuadé. Donc, dans l'exposition, je rappelle, à partir du 2 mai et jusqu'au début
jusqu'au 26 mai.
Ouais, ah oui, du coup, il y a...
Tout le mois de mai, quoi.
Après un mois. Oh, ça se passe à la médiathèque de lettres.
À la BU, Bibliothèque universitaire de lettres.
Absolument.
Et là, ce sont des clichés que j'ai pris sur le vif lors de mes recherches entre 2005 et 2010, quoi.
Oui, bon, on va le rappeler, là, parce qu'on en avait parlé dans l'émission à l'époque. Et puis, je me rappelle des photos que tu as pu prendre à la Jamaïque. Tu les as tous rencontrés, pratiquement, les grands, ceux qui étaient encore vivants.
Oui, mais d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont en photo là, dans l'expo, je crois que la moitié sont décédées là depuis. Hein,
bah oui,
ce sont des photos qui datent d'une quinzaine, vingtaine d'années.
Mais si, cite en quelques-uns pour faire...
Oh, il y a Toots.
Oui, Toots and the Maytals.
Spirit, non?
Burning Spear, you mean? Tu veux dire
Burning Spear, oui.
Non, ouais. il n'est pas sur les photos. Mais
les photos.
Mais il y a Toots, il y a Jackie Bernard, Max Romeo, Muta Baruka.
Ouais. Victor?
Oui, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de ta thèse. Là, tu expliquais que c'était sur les conditions socio-économiques et sociopolitiques qui ont amené qui ont influencé les musiques populaires jamaïcaines. Est-ce que tu parles aussi également de la religion qui a quand même une part très très particulière dans le reggae, notamment vis-à-vis de l'imagerie populaire de Babylone, de Zion?
Oui, bien évidemment, on ne peut pas parler de musique jamaïcaine et de reggae sans parler de Rasta, quoi.
Mm-hmm.
Ça, c'est évident, puisque le reggae, c'est vraiment le véhicule du mouvement Rastafari. C'est par le biais du reggae que le monde a découvert le mouvement Rastafari.
Absolument.
Donc, c'est vraiment lié. Hein. Mm-hmm. Donc j'en parle, il y a un gros chapitre là-dessus dans mon ouvrage.
D'accord, ok. Et tu relis ça du coup à l'éthiopianisme
Oui, c'est-à-dire que le lien entre l'Éthiopie et le mouvement Rastafari, c'est que le dieu pour les Rastas, c'est l'ancien empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Donc, il voyait en cette personne une sorte de messie, parce que, en gros, à l'époque, dans les années. Le mouvement Rastafari est né dans les années 30. Dans les années 30. Et à cette époque, il y a Marcus Garvey, qui était également jamaïcain, qui avait bougé un peu aux États-Unis, qui était revenu à la Jamaïque. Et c'était quelqu'un qui prêchait dans les rues, qui avait un rôle un peu politique, d'influenceur de l'époque. Et Marcus Garvey avait prédit qu'un jour, il y aura un messie noir qui viendra pour sauver ses membres de la diaspora, pour les ramener, les aider à les ramener sur la terre-mère africaine.
Exodus, ça te dit quelque chose?
Exodus.
Je voudrais revenir sur ton travail là-bas, quand tu rencontrais les stars de l'époque. Mm-hmm. Comment se passait la conversation? Est-ce qu'ils étaient réceptifs? Le fond de ma question, c'est est-ce qu'ils étaient plus réceptifs parce que tu es noir?
C'est sûr que ça a joué. C'est vrai que le fait d'être noir, ça m'a ouvert déjà des portes. Quand tu arrives là-bas et que tu leur dis que tu es africain, tout de suite déjà, African, yeah man, ils aiment l'Afrique, quoi. Donc tout de suite, ça casse des barrières. Et puis après, on discute. Et moi, je pense que ça m'a ouvert des portes, effectivement, quoi. Ça a été plus simple, peut-être plus rapide que si j'avais été blanc, à mon avis, quoi.
Bah, allez voir cette exposition. Il y a plein de belles photos qui sont dans ce livre aussi, Relations jamaïcaines. Tu en as fait d'autres, des livres, après ?
Ah oui, j'en ai fait d'autres. Plein d'autres. Oui. J'avais fait. Tu m'avais appelé pour un ouvrage que j'avais fait avec Lee Jaffe sur
Absolument,
Bob Marley.
Sur Bob Marley.
J'ai fait.
Allez, oui, un mot d'explication sur ce nom-là, parce que des jeunes qui nous écoutent ne savent pas qui c'est. Bon, peut-être Bob Marley, mais Lee Jaffe.
Lee Jaffe, c'est un Américain blanc qui a vécu, qui a rencontré Bob Marley au début des années 70, et ensuite il l'a suivi à la Jamaïque. Il est resté 3 ans à la Jamaïque avec Bob Marley, des années de 70 à 73, 74. Et donc, il a participé au développement des Wailers. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a organisé les premières tournées américaines pour des Wailers, puisqu'il avait déjà ses contacts aux États-Unis. Et puis, pour la petite histoire aussi, il a joué avec les Wailers. Mmh. Et c'est lui qui joue, d'ailleurs, l'harmonica sur Rebel Music.
Mais il n'est... j'ai fait des recherches depuis ton livre. Je ne l'ai jamais trouvé sur aucune scène avec Bob Marley. C'était exprès ou pas ?
Non, il a fait quelques scènes avec Bob Marley, mais tout au début. Il a fait des scènes à la Jamaïque, aux États-Unis, mais au début des années 70.
D'accord.
Après, il n'était plus dans le groupe. Oui, aux États-Unis, il a joué à Central Park.
Mais la Jamaïque, non, parce que je me disais qu'un blanc dans les Wailers, ça devait être problématique.
C'était le seul blanc.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'on l'appelait, d'ailleurs, son surnom, le Wailers blanc.
Tout à fait. Et Lee Jaffe est toujours vivant.
Il est toujours vivant, il est à New York.
Ouais. Il a fait plein de photos de Bob Marley, parce qu'il en sort toujours sur ses pages.
Il a fait plein de photos de Bob Marley, et pas que. Parce que lorsqu'il est revenu après aux États-Unis, il a rencontré Jean-Michel Basquiat.
Oui, absolument.
Et il était ami avec Basquiat. Il a pris aussi plein de clichés de Basquiat. Mais c'est vraiment un artiste touche à tout, photographe, peintre, musicien. Il a aussi joué avec Lenny Kravitz dans les années 90. Il est toujours vraiment à tout. Quoi.
Et rappelle-nous le livre que tu as fait avec lui, c'est...
Bob Marley and the Wailers, 73-76.
C'est aux éditions toujours le même.
Camion blanc. Voilà.
Camion blanc. Hein. Et puis, il y a un autre livre derrière où...
J'ai eu pas mal d'ouvrages. J'ai les origines du reggae, j'ai la traduction de Lee Scratch Perry, donc écrite par David Katz.
D'accord.
J'ai traduit pour aussi également Camion blanc. Il y a pas mal d'ouvrages. Quoi.
Ouais. Ensuite, tu es quand même enseignant. On s'est rencontré ici parce que tu étais enseignant en faculté de lettres.
C'est ça, tu es chargé de cours, voilà, c'est ça.
Et tu y fais quoi ?
Je suis dans le département d'anglais de LEA. Oui. Je donne des cours de civilisation britannique et puis langue de grammaire.
C'est le grand écart un petit peu.
Oui,
entre la civilisation britannique et le reggae.
Oui et non, parce que la civilisation britannique, la Jamaïque, c'est une île avait été colonisée par le Royaume-Uni. Donc, d'ailleurs, dans mes cours, j'ai des fois l'occasion d'en parler. On parle des phénomènes de migration. Si on parle du carnaval de Notting Hill, par exemple. On a l'occasion d'aborder la migration, les communautés jamaïcaines et de la Caraïbe anglophone de manière générale.
Et de temps en temps, tu participes à des documentaires dont nous allons parler maintenant.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Notre invité dans À bâton rompu ce soir, Jérémy Kroubo-Danini, écrivain, enseignant, en tout cas spécialiste des musiques populaires jamaïcaines. Le documentaire s'intitule « Le souffle du reggae ». Alors c'est un voyage entre la Jamaïque, évidemment, d'où on dit que le reggae est parti, l'Afrique et...
La France. Voilà, le documentaire commence en France. On part ensuite à la Jamaïque pour ensuite terminer dans le berceau, c'est-à-dire en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement.
Ouais. Et la Côte d'Ivoire que tu connais bien. Mm-hmm. Je voulais parler de la France un petit peu avec toi. La France, pour moi, le reggae arrive avec Serge Gainsbourg à la fin des années 70, début 80, et avec un petit peu Lavilliers, c'est pas ça ?
C'est-à-dire que le reggae a été popularisé pour le grand public par ces deux artistes qui avaient déjà une renommée nationale, notamment Gainsbourg. Mais sinon, le reggae, non, il arrive grâce aux Antillais, aux Africains. Ouais. C'est par le biais justement des migrants, des premiers migrants antillais, africains. Je pense à des groupes comme Sixième Continent, Savane, Moucha Pata, qui est décédé il y a quelques années. Même Daddy Yod, voilà, tous ces gars-là, ce sont les premiers à avoir fait du reggae dans les années 70. Ouais. Quoi.
Et puis, bah oui, et ça dure quand même jusqu'aux années 90, où là, vraiment, il y a une explosion. Hein, vraiment,
voilà, fin 90, ouais. Ça devient vraiment mainstream et on commence à entendre du reggae, notamment avec Pierre-Paul Jacques, dans les grands médias nationaux.
Quoi. Il y a même Trio.
Trio, ouais, voilà, Pierre-Paul Jacques, Sensemilia, ouais. Trio, voilà, c'est la grande époque, c'est la fin des années 90.
Et Sensemilia, tu en parles, ils m'ont plus marqué que les autres, un trio, non, c'est pas possible. Daddy Yod, c'est mon gars quand même, mais Sensemilia, écoute ça.
Fire sur tous ceux qui prêchent la haine, fire sur le borne et ses skinheads. Allez, viens là, man, jette le style, anti-pacho dub.
Attention, c'est du dub, c'est-à-dire pas beaucoup chanté. Sensemilia antifacho dub, ça vient à l'époque où le Front National commence à monter. Il y a plein de sons comme ça qui sortent avec des très militants.
Oui, très militants. De toute façon, le reggae, c'est une musique militante.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Et puis en plus, la plupart de ces artistes-là, reggae blanc, entre guillemets, quoi, comme Sensemilia, Trio, tout ça, beaucoup venaient aussi un peu de... du rock alternatif,
c'est ça.
Donc voilà, il y a cette culture du militantisme de gauche, quoi, et forcément on va retrouver des morceaux anti Front National de l'époque.
Ah ouais, il y en a plein. Ça, c'est Milia, donc hein, je crois qu'il continue à tourner, non?
Ils sont toujours là.
Victor?
Ouais, moi c'est à chaque fois, j'ai un petit pincement au cœur quand je réécoute Les Bérus et qu'ils voilà, disent plus jamais de 20%, etc. À chaque fois, ça me fait vraiment un petit pincement au cœur.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, il y a aussi la partie jamaïcaine de ce documentaire qui est très, très aussi fort, hein, avec des artistes que je connaissais, Proto J par exemple, mais Diana Rutherford, je ne connaissais pas. C'est une chanteuse qui dit aussi des choses fortes, qu'on va écouter tout là, maintenant, et puis tu nous en parles après.
Avant de faire des tournées hors de la Jamaïque, je ne mesurais pas l'impact du reggae dans le monde. Quand on vit ici, on ne s'en rend pas toujours compte. Les gens s'identifient au reggae à leur manière. Mais quand tu évolues dans cette musique, que tu la pratiques de plus en plus, tu te rends compte qu'il y a un message. Ce n'est pas juste une forme artistique. C'est une partie du mouvement Rasta. C'est indissociable. Tu ne peux pas te contenter des bases. Tu ne peux pas chanter de manière superficielle sans aller chercher les racines. Au fond, c'est inséparable. J'aime la Jamaïque. C'est chez moi. Je n'ai pas d'autre endroit comme ça. C'est là que je suis née, c'est ce que je connais. Mais pour découvrir son histoire, savoir d'où on vient, qu'on soit noir, blanc, qu'importe, c'est important de savoir ce qu'est African Redemption. Il ne s'agit pas de fuir la Jamaïque. C'est ce que disent les Rasta. On n'est pas chez nous ici. Mais moi, je suis jamaïcaine et je l'accepte.
Le reggae est né ici, la Jamaïque est sa terre. Oh, oh, oh. Oh man trouble. Stop knocking at my
Stop knocking at my window. Diana Rutherford, Trouble, Heartaches and... le titre, à vrai dire. Diana Rutherford, c'est qui alors?
C'est une artiste, c'est vrai qu'elle n'est pas hyper connue en France, hein, elle est plutôt confidentielle.
Mais elle est basée en Angleterre, non?
Non, elle est en Jamaïque. Elle est à la Jamaïque et en fait, c'est un peu la nouvelle scène émergente. Bon, là, ça fait quand même quelques années qu'elle est sur le devant de la scène. Ouais. Mais elle est mariée avec un réalisateur, avec un Français qui est installé à la Jamaïque depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Cher Khan.
C'est pour ça qu'elle parle bien français. J'ai vu des concerts où elle parle en
elle,
France.
Elle est mariée avec un Français qui est là-bas et puis qui est réalisateur, qui fait surtout, qui tourne surtout des clips pour les artistes locaux, les gros artistes, et c'est lui d'ailleurs qui tourne ses clips, producteur également.
D'accord. Ouais, elle dit des choses fortes. Elle dit que avant de savoir que la Jamaïque, le reggae était aussi puissant, il fallait qu'elle
voyageait quoi.
Qu'elle voyage, quoi.
Mais
est-ce qu'elle de quoi la Jamaïque, ils sont au courant quand même qu'ils ont, qu'ils nous ont envoyé des gens comme Bob Marley, puis Totoche, ou des gens.
Non. C'est vrai que si tu sors pas de la Jamaïque, tu te rends pas compte peut-être de son impact au-delà des frontières jamaïcaines. Mais c'est vrai que quand les Jamaïcains viennent et puis ils voient, par exemple, des Blancs qui portent des dreadlocks, et ils vont à Londres, ils vont en Allemagne, à Paris, je veux dire, dans toutes ces grandes capitales, et pas que, hein, même dans des villes comme Orléans, quand il y a toujours un concert de reggae quelque part. C'est vrai que la culture reggae est quand même assez diffusée dans le monde entier.
Hein. Absolument. Ah ouais, oui.
Jusqu'en Asie, et puis en Afrique, n'en parlons pas. Quoi.
Ah bah en Afrique, n'en parlons pas, parce que le documentaire également va en Afrique. Vous avez quelques nouveaux artistes, parce que tu nous parlais de Alpha Blondie, ça c'était les débuts des années 80. Alpha Blondie, star mondiale
star
maintenant.
Mondiale.
Tiken Jafakoli a suivi à une moindre mesure. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de.
C'est vraiment un pays, une des capitales du reggae en Afrique. Hein. Ouais. Ça, Abidjan, c'est sûr que.
C'est clair.
Surtout avec les deux grosses stars que tu as citées, Alpha Blondie et Tiken Jafakoli. Quoi.
Mais il y a d'autres jeunes.
Il y a d'autres, Ismaël Isaac, il y a Spyro, il y a plein d'artistes. Et en Côte d'Ivoire.
Et qu'est-ce qu'ils disent dans le documentaire, alors, ceux-là? Qu'est-ce qu'on...
Non, mais c'est... Dans le documentaire, on peut voir, parce qu'il y a, par exemple, un village Rasta. Alors, je ne sais pas si tu connais la Côte d'Ivoire.
Un petit peu.
Avridi, il y avait un Avridi, c'est vers Port-Boué.
Oui, Port-Boué, oui, voilà, absolument. Ouais.
Il y avait un village Rasta qui a été détruit.
Oui,
voilà,
si, absolument.
Ouais. Il y a une paire d'années.
Absolument.
Et donc, on voit les membres de cette communauté.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Énervés ou pas?
Bien sûr, qu'ils sont énervés, qu'ils sont installés sur Bassam. Et puis, donc, on prend... En fait, c'est dans le cadre aussi du... Il y avait le Abi Reggae Festival, qui s'est tenu pendant 3 années consécutives, de 2015 à 2018. Donc, le réalisateur était venu filmer pendant la première édition du festival. Donc, c'était vraiment un gros festival international. Hein. Il y avait l'un des fils de Bob Marley, Julian Marley, qui jouait là-bas. D'accord. Il y avait, bien sûr, Alpha Blondie, Kajim aussi, qui est une star locale. Hein. À Abidjan, c'était vraiment un gros festival de reggae et qui n'avait rien à envier au festival comme le Sunska ou le Garance Festival. Hein.
Et bien, tout ça, c'est dans le documentaire Le Souffle du Reggae, à voir à la salle Le Bouillon sur la faculté, sur l'Université d'Orléans. Je sais que tu as déjà réservé ta place,
Monsieur
Victor. Oui, moi, je veux y aller. On voit tout ça en Afrique. On va terminer l'interview avec ça en te remerciant d'être là. Mais tu restes avec nous, hein, évidemment, jusqu'à la fin en Afrique pour poursuivre l'œuvre de Alpha Blondie et de Tikenja. Il y a un gars qui s'appelle Takana Zion.
Takana Zion, c'est un Guinéen
de Conakry. Hein.
Conakry.
Il a une belle carrière.
Oui, il a une belle carrière. Et puis, il est d'ailleurs dans le documentaire.
Absolument.
On peut le voir en interview. Takana Zion. J'avais passé une soirée avec lui à Abidjan, justement. Et non, c'est quelqu'un de tout à fait. Tout à fait agréable et vraiment talentueux.
Et très ouvert. Il y a plein de copains musiciens d'Orléans qui le connaissent, qui ont joué avec lui et qui me disent que c'est vraiment quelqu'un de très bien. Un de ses plus grands succès maintenant. J'adore ce son. Et ensuite, on continue à parler des casserolades. Hier, c'était colère à Orléans. On a tapé sur des casseroles.
Na pala ne fonga isato, ngai ne gamara fani mad.
Takana Zion, retenez le nom si vous ne le connaissiez pas et allez chercher, écouter des choses de ce bonhomme qui est talentueux à en crever. Bon, c'est le plus tard possible. Takana Zion, ça s'appelle Depuis à Singer, un de ses plus grands succès dans Un bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Oh là, ça coupe vite.
Un bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Oui, mais enfin, t'es arrivé vite. Bon, allez, on va continuer à parler des casserolades. C'était hier hein, dans toute la France pour commémorer les un an de l'accession de la réélection. Hein. Corrige-moi, César, il était réélu.
Il a été réélu.
Donc il y a un an. Pardon, je ne sais plus. Et donc voilà, pour exprimer la colère, hein, vous avez entendu tout à l'heure avec Mourad, Hélène, citoyenne orléanaise, et Jean-Sébastien Herpin qui représentait là le parti écolo, les Verts. Et il y avait du bruit tout le temps, mais en fait, écoutez, il y avait ça, par exemple. Là. Je ne sais même plus ce qu'il... Ouais, Macron, t'es foutu. Orléans est dans la rue. Il y avait 150 personnes à peu près, je vous disais. La police m'a dit 120. 150 à 200 personnes, j'ai compté moi. Et parmi eux, il y avait des jeunes. Hein. On écoutera deux jeunes filles tout à l'heure. Mais il y avait aussi des anciens à qui j'ai tendu le micro, notamment Denis Petitjean. C'est un citoyen très averti. On l'a rencontré dans plein de manifestations. Et il m'a donné son point de vue sur ce qui se passe maintenant.
Il y a un mouvement social comme jamais il y a eu en France, je crois, depuis 68, avec un pourcentage de la population considérable qui est contre cette réforme. Et Macron répond par un mépris, une arrogance qui est inimaginable. Donc face à ça, il ne faut pas céder, il faut se rassembler le plus possible, faire un premier mai massif, immense, etc. Et essayer de faire qu'il retire cette retraite.
Est-ce que tu souhaites un premier mai massif?
Ouais. Je crois que l'intersyndicale a bien fonctionné. Contrairement à ce que disaient des gens, la CFDT s'est pas retirée parce que je crois que Berger et ils respectent leur mandat. Et c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Et donc à partir de ça, il faut s'appuyer là-dessus pour essayer de mettre fin à cette réforme.
Mais le président de la République n'a pas envie de retirer son...
Non, il n'a pas envie, mais il y a d'autres fois, le CPE, il y a d'autres histoires, ils sont obligés, ils sont contraints. Le danger majeur, c'est que dans 4 ans de Macron comme ça, c'est 5 ans de Marine Le Pen après. C'est mathématique.
Je disais, Denis Petitjean, citoyen averti, si on a fait des manifestations, mais il se passe vraiment quelque chose là.
Oui, mais c'est comme toujours, on peut pas... les gens sont curieux, le mouvement social est curieux. Les gens disaient, la CFDT va péter la syndicale, ta. Non. Donc, ça correspond à un mouvement de fond dans la population, qu'il faut respecter. Après, comment ça va se passer, j'en sais rien. Je suis incapable de prévenir l'avenir, je ne sais pas. Il faut vivre au jour le jour. On verra après le 1er mai, on peut avoir des surprises. Je crois que profondément, le peuple en a ras-le-bol. La classe ouvrière en a ras-le-bol. Et ça risque, Macron, il ne va pas faire 4 ans comme ça. J'y crois pas.
Une dernière question, les jeunes, il y en a quelques-uns là ce soir. Est-ce que tu trouves qu'ils se mobilisent suffisamment?
Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a des très jeunes qui se mobilisent. Il y a eu une coupure générationnelle entre moi, on ne voit pas les trentenaires, etc. Et là, on voit des très 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 jeunes qui se mobilisent. Et ça, c'est bien. C'est bien. On peut mourir tranquille maintenant.
Oui, mais le plus tard possible quand même, Denis, s'il te plaît. Oui, des jeunes dans le mouvement, Victor, tu en as croisé, on a diffusé tes interviews ici. Toi, tu remarques également hein, qu'il y a de plus en plus de jeunes.
Il y a un trou. Pour le mouvement des retraites, des étudiants, il n'y en avait pas forcément tant que ça, alors que des lycéens, il y en avait énormément.
C'est vrai.
Je sais vraiment pas pourquoi. Mon avis, c'est les conditions dans les cas. Enfin, c'est ce que nous racontait Léo la dernière fois, c'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus fliqué la fac. Faut prouver, faut justifier de son absence, etc.
Il y a de ça.
On peut plus facilement sauter des cours pour aller en manifestation comme avant, quoi. Ce qui effectivement était déjà mon cas moi quand j'étais à la fac de droit, mais apparemment, c'est maintenant, c'est même le cas en fac d'histoire. Donc ça fait quand même un peu flipper. Mais c'est vrai qu'aussi, ce qu'il explique, enfin ce que Petit Jean expliquait là, enfin Monsieur Petit Jean, Denis, c'est que effectivement, on voit pas les trentenaires. Alors, oui, on voit pas les trentenaires dans les manifs. Alors je sais, sauf les profs, bien sûr. Hein. Faut pas déconner. Mais je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est peut-être parce qu'ils sont en début de carrière. Du coup, ils ont pas spécialement envie de se griller en allant manifester ou ce genre de choses, ou simplement parce qu'ils sont jeunes parents et que du coup c'est compliqué avec des enfants d'aller manifester. Mais c'est vrai qu'effectivement il y a un vrai fossé générationnel et on trouve des beaucoup plus âgés, enfin et plutôt 50-60 ans, et des lycéens et des étudiants. Mais c'est vrai qu'entre les deux il y a quand même un gap, quoi.
En tout cas, oui, les jeunes que j'ai croisés hier sont informés, hein. On va écouter Kenza tout à l'heure. Kenza, elle fait partie des jeunes communistes au niveau national. Elle était à Orléans hier. Et il y a également beaucoup de jeunes du NPA que j'ai vu prendre le micro et taper sur des casseroles. Kenza, oui, elle est venue à mon micro spontanément. Elle a pris le micro avant. Elle a parlé de plein de choses, de droits des femmes, les études. Et je lui ai demandé de répéter tout ceci à mon micro.
En tant que jeune, on est présent à toutes ces manifestations qui sont contre la réforme des retraites. C'est pour dire que la retraite, c'est aussi une affaire de jeunes, parce qu'on sait qu'on a nos aînés qui ont lutté pour avoir une retraite, pour avoir tous les acquis qu'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas reparler de la sécurité sociale et blablabla, et tout ce qu'on connaît, le droit de vote des femmes, les logements sociaux, parce qu'on sait que ça vient du Front Populaire et de l'Union de la Gauche à l'ancienne. Cependant, nous, on sait aussi pourquoi on est là, parce qu'on veut des études de qualité accessibles pour toutes et tous. Et qu'est-ce que ça veut dire, des études? Ça veut dire ensuite le métier de notre choix, ça veut dire ensuite tout ce bel avenir qui s'offre à nous. Mais aujourd'hui, à quoi ça sert si on a la santé, si on a tout et qu'on ne peut pas avoir une retraite de qualité? Nous, on veut pouvoir vivre dignement. On veut une vie digne pour toutes et tous. Et c'est ça qu'on revendique au mouvement des jeunes communistes de France.
Je vous ai vu, je vous ai entendu tout à l'heure prendre le micro. Vous avez aussi parlé des droits des femmes, tout ça, c'est lié.
Mais c'est très important. On n'a qu'à juste parler aujourd'hui. Si les femmes, elles étaient payées autant que les hommes, on n'aurait pas besoin de travailler plus. Parce que les cotisations que les femmes paieraient sur le salaire qu'elles auraient, le même que les hommes, eh bien, on pourrait tous partir en retraite à 60 ans et le monde, il serait bien plus beau, en fait, si les hommes étaient payés comme... si les femmes étaient payées comme les hommes. On n'en serait pas là.
On n'en serait pas là. C'est pas faux ou bien. Élise dit la même chose également. Elle était également présente hier soir. Écoutez-la.
Tous se mobiliser et venir faire du bruit pour se faire entendre et espérer le passage de ce référendum à une initiative partagée le 3 mai.
Le gouvernement, le président de la République disent... Rien ne se passera, on ne va pas enlever cette réforme. Vous ferez du bruit quand même.
Bah, on va faire du bruit quand même, oui, parce qu'on va, on va pas laisser ça passer. C'est vraiment une réforme qui est totalement aberrante. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs dizaines d'années, on se battait pour la retraite à 60 ans. Après, il y a eu le passage à 62. Là, 64, c'est plus que la goutte d'eau. C'est vraiment la rivière qui fait vraiment déborder le vase.
Et pour les jeunes aussi, ça compte, ça?
Ah oui, bah ça compte, parce que... C'est notre avenir. Je veux dire, la plupart, enfin pas la plupart, mais il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui font des études. Il y en a qui finissent leurs études à 28 ans. Ça veut dire la retraite, en fait, ils vont quasiment pas l'avoir. Ils vont mourir peut-être 2 ans après l'avoir eu. C'est totalement aberrant.
Eh ben, le plus tard possible également, Élise. On parle beaucoup de morts dans cette émission. Parmi les citoyens engagés dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de rencontrer Patrick Communal, un ami, un ancien avocat, très engagé dans la lutte, dans les luttes sociales. Et juste avant de lui demander sa raison d'être là parmi les gens qui tapaient sur des casseroles, j'ai parlé un peu avec lui, un peu d'histoire. La question c'était, mais est-ce que toi Patrick, tu sais si les casserolades, c'est une tradition française ou pas? Et il me donne, voilà, toi tu m'en as parlé également Victor, on en parlera tout à l'heure, mais écoutez la réponse de Patrick Communal, est-ce que c'est une tradition française?
Il y avait les charivaris, il y a eu aussi les raflux de la Saint-Polycarpe, les premiers les anarchistes qui luttaient contre les propriétaires qui expulsaient, ils organisaient des manifestations de ce genre au moment de... Quand les huissiers venaient saisir, et c'était au début du siècle. Le gars s'appelait Cochon, d'ailleurs, le leader anarchiste, qui est un petit peu l'ancêtre de la Confédération nationale des locataires. Et ils organisaient des rafus de ce genre.
Mais qui exprime la colère, hein.
Absolument.
Alors, Patrick Communal, vous êtes en colère ou pas?
Oui, bah écoutez, moi je suis comme tout le monde, j'en ai marre de la monarchie présidentielle. Donc je voudrais que ça s'arrête. Et la meilleure façon de s'arrêter, bah, c'est de le dire et de le hurler comme on peut, hein, puisque les institutions de la démocratie représentative ont du mal à fonctionner. On vient manifester devant la mairie.
C'est ça, mais comme disent beaucoup de gens que j'ai croisés là dans la foule, c'est assez inédit à Orléans qu'il y ait autant de monde, parce que là aujourd'hui c'est les vacances évidemment, il y a un peu moins de monde, mais chaque fois, toutes les manifestations avant et la première manifestation des casseroles, il y avait du monde.
Oui, à Orléans il y avait beaucoup de monde. Alors j'ai appris que Macron se déplaçait demain à Vendôme, et Vendôme c'est une petite ville, mais c'est une des villes de la région centre qui s'est le plus mobilisée contre la réforme des retraites. Il y a des soirées tous les jours, etc. Il ne va pas être déçu de sa visite.
Alors, un dernier mot, il se dit qu'il se prépare un 1er mai et festif et mobilisé. C'est votre souhait aussi?
Ben oui, je vais y aller. En plus, c'est la première fois depuis très longtemps que toutes les organisations syndicales et les forces de gauche vont y aller ensemble et de manière unitaire. Bon, on peut au moins remercier Macron pour ça. Donc effectivement, c'est historiquement important. Oui.
Et pour la visite à Vendôme, hein, cher Patrick, j'ai regardé, je suppose que vous également, ou toi également.
C'était aujourd'hui.
Ça s'est passé comme prévu. Mmh. Les gens ont tapé sur des casseroles, beaucoup de gens. Ils ont été mis loin du président, évidemment, et sa délégation, qui l'ont peut-être entendu, mais pas vraiment vu. Mais comment vous appelez quelqu'un qui veut aller à la rencontre et qui esquive des gens, enfin?
Eh ben, je sais pas.
Bah non, voilà. Bref,
je sais pas comment on appelle ça.
Merci en tout cas à toi, Jérémy Crobo-Danini, hein, venu nous parler ici d'une exposition à partir du 2 mai prochain et jusqu'au 26, et puis un documentaire qui sera diffusé. Je crois qu'on n'a pas parlé vraiment de cet événement, hein, qui est national, je dirais, même international, je regardais, ce sont les semaines.
Les semaines, voilà, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Voilà, c'est ça. Donc,
dans les universités françaises.
C'est ça. Et pas que, hein,
oui, bien sûr.
Les alliances françaises,
tout à fait, dans le monde.
Institutions, voilà, dans le monde.
En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Il y a des tables rondes qui se préparent, des choses comme ça. Merci encore une fois à toi, Jérémy, d'être
venu.
Merci
à toi.
Victor, à mardi prochain.
À mardi prochain.
Pas de sujet dans ma tête, en tout cas. Mais restez fidèles à Radio Campus, restez fidèles à nos réseaux sociaux. Hein. Il n'y a plus que comme ça que vous savez le midi du mardi, ce qui se passe le soir même. Merci à vous, à Tours, de nous avoir suivis également. Je vais remettre Takanazayan là pour finir et pour appeler Raiden qui arrive, hein, sur l'antenne d'Orléans jusqu'à 22h à Tours. Je crois que c'est le jazz à 21h. Passez une belle soirée, une belle semaine, et revenez ici mardi prochain. Takanazayan depuis Asingé. Ciao, ciao. It will be now.